Bienvenue sur cet épisode de Jason Pédagogie Numérique qui sera la première partie d'une thématique que j'adore aborder, la réalité virtuelle. Dans cet épisode enregistré en mars 2021, j'invite Dominique Carmichael, technopédagogue au collège Champlain de Lennoxville, à nous parler de son parcours et de sa passion pour les techniques d'environnement numérique immersif. Il y a un an, nous étions en pleine distanciation physique et notre discussion sur les avancées de la réalité virtuelle en enseignement nous avait permis de rêver au studio volumétrique, à la pédagogie expérientielle et même à des pôles collégiaux dédiés uniquement à la réalité virtuelle. En soi, aujourd'hui, je me demande vraiment si nous rêvions. La réalité virtuelle évolue si vite qu'elle séduit de plus en plus les établissements et les enseignants du réseau collégial. Et selon Dominique Carmichael, ce n'est qu'un début. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Tu as accepté l'invitation et on a un petit rituel pour ce balado. On s'est dit qu'on allait demander aux invités comment ils en sont venus à la technopédagogie.
Ben, moi, je pense qu'on n'arrive pas à la technopédagogie, on vient au monde technopédagogue. Non, c'est une blague, mais on est attiré par les technologies. Hein. Je pense que c'est ça, en fait, le technopédagogue. C'est quelqu'un qui est attiré par les technologies. Moi, toi, tu vois, t'as eu un parcours en anthropologie, tout ça, puis c'est l'humain à travers tout ça qui t'attire vers les technologies aussi. Mais tu sais, je pense qu'il y a un arrimage entre le technopédagogue puis son cheminement. Puis moi, tu sais, c'était le dessin assisté par ordinateur. Puis là, à partir de là, c'est raconter des histoires avec du dessin par ordinateur. J'ai fait du 3D. Tout ça, ça va vers le technopédagogue parce que dans le fond, tu es attiré par les technologies. Tu veux performer avec les technologies. Donc, puis aussi, les technologies, ça t'amène vers l'apprentissage. Hein, parce que les technologies, ça bouge rapidement. Puis, tu es toujours confronté à des apprentissages, à des nouveaux outils, à des choses qui vont… Fait que là, il y a l'apprentissage. Puis, quand tu décides de gagner ta vie avec les technologies… Ben là, il y a de l'éducation qui vient avec, parce que les technologies c'est souvent innovant. Et qui dit innovation dit formation, enseignement, hein, pour faire comprendre les projets. Moi, comme professionnel du numérique, j'ai dû éduquer mes clients à dire oui, ça c'est possible, non, ça c'est pas possible pour telle raison. Puis si tu veux avoir une belle collaboration lorsque tu es un professionnel du numérique, ben l'enseignement, ça fait partie de ta pratique parce que dans le fond, faut que ton client, lui, il se dise « OK, je comprends pourquoi c'est possible et pourquoi c'est pas possible. » Fait que là, tu fais de l'enseignement. Fait que tu sais, dans le fond, le technopédagogue, je pense qu'on le devient au fur et à mesure qu'on s'intéresse aux technologies. Comment je suis allé vers l'éducation, mais donc plus formelle, là, parce que ça, je te parle de mes activités à travers mes activités professionnelles avant de devenir technopédagogue en éducation. Ce qui m'a attiré beaucoup de l'éducation, c'est mon projet à la maîtrise que je faisais en multimédia. Là, ce qui m'intéressait, c'était comment que l'être humain intégrait de nouvelles interfaces, puis toutes les dérives qu'il peut y avoir à travers la découverte d'une interface. Fait que c'est comme ça que j'ai fait une demande au doctorat à Sherbrooke en éducation, pour, bien entendu, un projet avec la technologie, entre autres choses, la réalité virtuelle. Et c'est à peu près comme ça que je suis devenu un grand technopédagogue.
Oui, super! Dominique Carmichael, le grand technopédagogue.
Je mesure 6 pieds 4, là, Florence.
Ben oui, donc c'est effectivement ça.
C'est
pas un jeu de mots, là.
C'est physique, c'est pas…
Oui, c'est ça. Très intéressant, parce que tu as parlé de multimédia, tu as parlé de l'apprentissage. Tu as commencé comment, à la base, toi, ta formation initiale, c'est quoi? Ou professionnellement, qu'est-ce que tu faisais avant, puisque tu parlais de multimédia?
OK, ben moi, là, j'ai étudié en littérature, puis j'ai pas terminé, parce que là, je suis tombé sur des gens à Montréal… des artistes de la première heure, si on peut dire, en multimédia, ces primes au Centre d'art médiatique. Eux avaient des studios professionnels pour des artistes comme un peu Michel Lemieux. Là, je fais du name dropping, là, mais comme Luc Courchesne qui était membre. Il y avait plusieurs artistes là qui étaient membres. C'était une coopérative d'artistes pour faire des projets en multimédia. Fait que moi, je suis tombé là-dessus, puis là, écoute, c'était un parc d'amusement. Là, il y avait carrément tout ce que quelqu'un qui aime les technologies désire, des studios de son, des studios de montage, vidéo, toutes sortes de bidules pour faire de l'interactivité. Et entre autres, il y avait une machine qui était toute seule dans son coin, qui s'appelait un Silicon Graphic. C'était un ordinateur qui pouvait, à l'époque, faire du 3D. Fait que là, ça m'attirait vraiment beaucoup. Puis, il y avait presque pas personne qui allait là-dessus. En fait, il y avait personne. Puis, le logiciel qui était hébergé sur cette machine-là, c'était Tarna. Fait que là, j'ai commencé à explorer. Il n'y avait pas de manuel d'instruction, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'Undo. Undo, ça n'existait pas sur le programme. Tous les projets 3D que je faisais, c'était vraiment, fallait pas se tromper, on se faisait des versions. Puis c'est ça, je suis tombé en amour avec le moteur comme tel de modélisation. Là, j'avais passé des heures à modéliser des projets. Ça allait vraiment bien. C'était le père de plusieurs outils, Maya, ZBrush. Tarna, ce logiciel-là, c'était vraiment un logiciel extrêmement performant à l'époque. Après ça, je me suis reformé vers les effets spéciaux, Softimage, et c'est ça. Puis toujours avec une perspective de 3D. Le rêve d'un modélisateur, là, de quelqu'un qui fait de la modélisation, le rêve, c'est vraiment d'être dans le moteur puis de vraiment modéliser avec les outils à côté de l'objet ouais. que tu es en train de modéliser. Puis, tu sais, on en parlait à l'époque qu'on se disait, hey, ça serait le rêve, là, vraiment, là, de pouvoir être à côté, de tirer les points avec tes mains puis de vraiment, comme si c'était de la matière avec les outils numériques. Ben, c'est quoi, Florence, ça existe aujourd'hui. On peut faire ça comme usager, être à côté de la modélisation qu'on fait avec la VR. Et c'est complètement extraordinaire là, ce qu'on vit présentement. Là. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé à la réalité virtuelle que je veux implanter en éducation. Ça me semble tellement prégnant là, comme projet là, pour un usager là, ou un apprenant. Là, c'est vraiment intéressant.
Mais c'est ça, donc la spécialisation. Et c'est pour ça que tout naturellement, tu as été amené justement à sauter dans le monde des technologies immersives. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à t'intéresser, non, mais à pouvoir peut-être concrétiser quelques projets ou aller fouiller le casque de réalité virtuelle? C'est comment ça s'est passé ces premières fois-là?
Ben, c'est ça. En fait, moi, j'ai été engagé. Mon premier job, là, c'était au Collège Hansik. Au Collège Hansik, ils voulaient développer un laboratoire de chimie virtuelle. Puis là, j'ai sauté dans Unreal Engine. Je me suis formé dans Unreal Engine. Puis dans Unreal, ben là, j'ai vite compris, d'un, il y a déjà des gabarits faits dans Unreal, ça va très bien. Il y a beaucoup de modélisations qui ont fait que tu perds pas trop de temps. Il faut juste que tu comprennes la mécanique puis comment amener l'animation. À l'époque, il y avait des manettes puis des poteaux pour pouvoir synchroniser tes manettes avec ça puis des trackers. Mais on peut pas avoir de la manipulation fine là, comme le professeur il voulait. Là. Il y avait une petite valve, puis il y avait de la rétention sur la valve qu'il fallait programmer. Ça, c'est pas peut-être pas le dessin de la réalité virtuelle d'aller sur des choses fines comme ça qu'on peut faire en laboratoire. Tu sais, physiquement, tu n'auras jamais ce que la réalité peut te donner. Mais en tout cas, on n'est pas encore là. Fait que...
Quand tu dis ça, j'avais assisté justement sur Unreal Engine un cours d'anatomie où je devais reconstituer un squelette. Oui. On était en amphithéâtre virtuel. On venait au tableau, on y avec le prof d'anatomie. T'sais, en parlant de finesse, est-ce que c'est ça qui est trop précis?
Mais tu sais, sur un petit chalumeau, mettons, là, tu dirais comme. Eux autres, c'était sur une pipette, là, il y avait comme une petite valve là, qui était sensible. Tu sais, que ça. Si tu tournais d'un millimètre de cran, là, ça laissait tomber une goutte. Puis si tu allais
un millimètre plus loin,
ça laissait tomber un filet. Puis plus loin, mais là, toute ta pipette se vidait. Fait que tu sais, cette rétention-là de la valve, là, c'est dur à imiter là, en réalité virtuelle là, avec la finesse des doigts. Même les doigts à l'époque. Là, maintenant, aujourd'hui, hey, on parle de les mains sont traquées. Ça fait déjà Ça fait déjà 6 mois qu'on track les mains, c'est-tu pas merveilleux? Mais à l'époque, il y a des manettes. Les manettes, eux autres, ils t'amènent en réalité virtuelle, mais c'était un petit peu grossier. Là. Tu pouvais pas aller au millimètre près. Là. En réalité virtuelle, on n'est pas encore là sur le millimètre près. Mais dans de la reconstitution comme ça, à promener puis à amener des morceaux, les assembler, oui, des morceaux, oui, ça fonctionne bien. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a une scénarisation à faire, tu sais, avant de se dire oui, on peut tout refaire en réalité virtuelle. Oui, on peut tout refaire le réel en réalité virtuelle, mais tu sais, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Là, tu sais. Puis je pense qu'on en est là aujourd'hui, malgré que ça va très, très rapidement, là, ça avance beaucoup. Je te dirais qu'en pandémie, présentement, on a fait un saut de 4 ans. Là. Probablement, en réalité virtuelle, là, tout ça s'est activé vraiment beaucoup. Là. Tout ça m'a amené vers le projet, naturellement, vers la réalité virtuelle. Puis le Collège Antic m'a donné l'opportunité de travailler ce projet-là. Parallèlement, ce que j'ai vu, c'est aussi, il y a toute une pédagogie expérientielle à développer avec ça, tu sais. En parlant avec un professeur du Collège Antic en mécanique du bâtiment qui me disait, bon, au niveau de la motivation des étudiants, au niveau des projets, il y avait de la misère à vraiment les motiver. Puis, fait que là, on se disait, mais peut-être les amener en réalité virtuelle, visualiser leur projet, ils vont peut-être comprendre c'est quoi le métier d'une personne qui fait de la mécanique du bâtiment. Fait que j'ai fait des tests. On s'est fait comme un mini banc d'essai, là, informel, puis on a amené des jeunes, c'était à la bibliothèque, la machine était là, puis ils ont mis le casque. Mais dès qu'ils ont mis le casque, ces jeunes-là se sont transformés littéralement, Florence. C'était de toute beauté à voir. Là, ils étaient, on aurait dit, dans un environnement qu'ils connaissaient. Là, tout prenait sens, tout avait de la perspective pour eux autres. Puis là, ils se disaient, ah, wow, ça va être ça, mon métier, j'ai fait ça. Puis là, ils pouvaient voir toutes les choses qui n'avaient pas d'allure, parce que une des choses que le professeur me disait, c'est qu'ils mettent des toilettes en plein milieu d'un corridor, puis ils veulent pas changer ça, là, tu sais, fait que là, les jeunes, ils pouvaient aussi, en rétroaction sur le moniteur à côté, voir ce qu'ils faisaient, puis ils riaient, là, de voir le projet de jeunes. Fait que, tu sais, au niveau de l'expérientiel, là, je pense que la réalité virtuelle en éducation, là, elle a vraiment sa place. Je pense que les projets doivent s'en aller vers ça, puis être scénarisé en fonction aussi du médium. Ouais, c'est pas mal ça.
Et en fait, je me pose justement cette question, tu sais, j'avais lu un article fait par un conseil technopédagogique du récit à l'époque qui parlait de l'effet waouh, de la réalité virtuelle. Tu sais, tu me parlais de ces étudiants qui sont transformés, qui ont eu un intérêt, justement, ça a été quelque chose de nouveau. Ça tient, ça? Parce que c'est ça, on se pose toujours la question de, il y a effectivement l'effet waouh, est-ce que ça finit pas par retomber comme un soufflet? C'est quoi justement la plus-value? C'est le changement, mais est-ce que ce changement, il peut être pérenne? Est-ce qu'il y a une sorte d'obsolescence de la réalité virtuelle quand on l'intègre dans ce type de programme en éducation?
Ben, ouais, là, c'est comme n'importe quelle cause. Moi, je me souviens de mes cours à la maîtrise, là, je me souviens plus de son nom, ce professeur, mais son cours était bien monté, puis il y avait toute une... Il était scénarisé, son cours, tu sais. C'était vraiment bien scénarisé. Il y avait comme une montée puis une chute à la fin. C'est comme une pièce de théâtre. Dans le fond, tu vas au théâtre, là, on met l'énigme en place, on met toutes les choses. À un moment donné, il y a la chute, là, tu sais, il y a le dénouement. Puis là, tu sais, ah, OK, tous les autres morceaux ensemble, ça fait du sens. Mais je pense que c'est ça, la réalité virtuelle. C'est un outil hyper performant pour justement faire une chute à quelque part, tu sais, de dire, voici ce que tu vas faire dans la réalité. C'est pas la réalité. En architecture, ici, au séminaire, là, on les a pas construits, les mini-maisons qu'ils ont fait, là. Mais ils les ont visités pour vrai. Fait que juste ça, je pense que, tu sais, c'est ça, si c'est bien amené dans le cadre d'un cours, dans une séquence de cours, je pense que là, l'effet wow, c'est plus juste wow, c'est vraiment voici comment tu vas travailler, puis comment ça va se bâtir, la réalité, lorsque toi, tu vas t'impliquer dans le travail que tu as décidé de faire dans la vie. Fait que je pense que la chute, comme on dit, là, de ce que ça peut amener peut-être la réalité virtuelle, puis là, on décide de le pousser plus loin, là. On veut faire de la rétroaction. Moi, là, on ne le verra pas, mais on est en train de digitaliser des professeurs, puis de les amener dans la mini-maison. on va amener la professeure, puis elle va donner des rétroactions directes dans le plan. Fait que c'est des belles perspectives. Peut-être, puis on a vraiment exploré aussi le fait de streamer live un professeur dans un casque de réalité virtuelle. On a fait ça cette semaine.
Wow! Alors, comment faut raconter tout ça? Comment ça s'est passé?
On a du lag, là. On a un 20 secondes de délai. Ouais. Fait que c'est sûr que de la façon qu'on s'y prend, c'est peut-être pas la meilleure façon. Là, tu sais, on le fait avec pas de sous, pas une scène. Là, tu sais, on est là. Moi, je suis avec un stagiaire, Félix, mon stagiaire, que j'aime beaucoup. Lui, il programme les choses à la mesure de ce qu'il connaît. Puis on y va comme ça. Mais on arrive à streamer live avec un iPad Pro. On réussit à se capter, puis à s'envoyer sur un serveur, puis à être capable de se renvoyer sur une plateforme à l'intérieur d'un univers. Mais tu sais, il y a un 20 secondes de délai. Fait que je pourrais pas donner une formation.
Avec... Vous utilisez quoi, Engage, ou vous êtes sur quoi comme plateforme?
Puis Mozilla Hub.
Oui, OK, Mozilla Hub.
Puis, on l'a installé, on a pris un serveur Amazon, on a installé les Mozilla Hub, puis là, on a réussi à se streamer live à l'intérieur. La possibilité va être là, c'est certain. Là. On s'en va vers ça. Fait que il y a des beaux projets, il y a des choses intéressantes là qui s'en viennent pour l'éducation, je te dirais, avec la réalité virtuelle. L'effet wow, là, mais moi l'effet wow là, j'y crois pas parce que dans le fond, si on scénarise comme faut là, mais je pense que ça va faire partie de nos pratiques dans moins de 3 ans.
C'est ça, c'est effectivement de voir la réalité virtuelle comme un outil qui va permettre de couvrir en fait une partie de la scénarisation, mais tu sais, ça s'intègre effectivement dans tout un montage de l'apprentissage et pas, ça recouvre pas tout en fait. Mais l'idée d'intégrer justement les rétroactions dans le module, ça c'est encore quelque chose, tu vois, qui est super intéressant à utiliser, puis qui est pas tant répandu que ça, mais ça commence à arriver dans le réseau justement de se dire, ben si l'étudiant pouvait avoir de la rétroaction dans le module de réalité virtuelle, là, ça apporterait encore plus de choses. Pour rebondir par rapport à tes projets, est-ce qu'il y a des choses que tu as entrepris en réalité virtuelle dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'un cours, mais qui n'ont pas fonctionné parce que ce n'était pas la bonne approche? Tu sais, sachant que tu étais sur le terrain quand même de la réalité virtuelle en éducation depuis quand même pas mal de temps, est-ce qu'il y a des fois tu y allais à tâtons puis ça allait pas, et sur quoi faut se centrer pour être sûr que l'apport de la réalité virtuelle va pogner là? Est-ce que ça vient du prof? Parce que des fois il y a des profs qui disent, ah, je veux faire ça. Est-ce que tu les recadres? Comment tu les accompagnes?
OK, ben tu sais là, moi, là, j'ai vu l'avènement là, de la vidéo. Là, tu sais, comme je t'ai dit au départ, là, en 91, là, moi, je faisais partie d'une coopérative là, qui faisait de la vidéo, des projets vidéo. Tout ça. C'était compliqué, c'était lourd. Là. On allait en Betacam, il fallait blacker la cassette après ça. Il y avait plein de manipulations. On rentrait dans des studios qui étaient larges comme des cockpits d'avion. Il y avait des boutons partout. Tout ça. C'était pas simple. Après ça, il est venu tranquillement... le montage non linéaire, là, tu sais, là, fait que là, on avait là des Avid, là, avec des cartes à 200 000 piastres, puis là, on numérisait, puis là, tu sais, c'était pas simple encore, c'était lourd, on prenait un studio avec des cartes 200 000 piastres, puis là, tout d'un coup, là, les PC ont pris le dessus, puis là, tout d'un coup, là, c'était plus abordable, c'était plus facile, on était capable d'en faire, mais là, il fallait transcoder, là, toi, ah, tu m'as fait un quick time, envoie ça en VI. Fait que là, mais là tu sais, aujourd'hui, là, quelqu'un a un studio dans son téléphone, OK, de vidéo, là, aujourd'hui, on communique, toi puis moi, par vidéo, ça fait partie de nos mœurs, c'est simple, on allume nos caméras, les caméras sont performantes, on regarde les nouveaux iPhone 12, c'est performant, mais en réalité virtuelle, là, ben on est au début de ce que c'était la vidéo il y a 20 ans, 30 ans. Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas simple, c'est pas facile. Faut s'organiser comme on s'organisait à l'époque avec Prime Centre d'art médiatique. On donnait l'accès à ces gros studios-là pour que les artistes puissent venir faire leurs projets. Fait que Moi, ce que je vois, puis je l'ai annoncé, là, il y a un comité reptique là, pour l'immersif, là, mais je dis crime, ça n'en prend un centre comme ça. Là.
Ouais.
Parce que là, à petite échelle, qu'est-ce que je fais chez moi? Ben oui, tu sais, je suis débrouillard, puis ça roule avec ce que je suis capable d'y mettre. Mais il faut essayer de se donner des moyens, puis de suivre ces moyens-là, puis ça va évoluer dans le temps. Là. Déjà, en 2018, j'étais en cycle, là, mais là, en 2020, là, 21, bien déjà, il y a des plateformes que tu peux arriver, puis tu peux numériser. On a regardé Spatial là, cette semaine.
Oui.
Écoute, il te fait un avatar de toi-même, il vient de te digitaliser comme humain, puis après ça, bien, t'es dans une salle. Tu sais, c'est intéressant. Puis lui, il va tracker aussi tes mouvements. Fait que là, t'as un avatar de toi-même dans une salle. C'est accessible, là. Fait que là, écoute, c'est pas parfait, là. On est au début. Je me projette dans 4 ans, là. Florence,
en plus, ça va tellement vite. Tu parlais du hand tracking. J'ai vécu juste le moment où j'ai acheté mon casque avec les manettes. Puis j'ai revu popper dans mon casque un truc d'essayer le hand tracking. Puis j'étais, mais oh, ça a été trop vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va effectivement exceptionnellement vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il y a pas mal de projets hein, qui arrivent dans les cégeps. Tu sais, les enseignants sont... Justement, on a avancé, on a une avancée de 4 ans, tu disais, par rapport à la pandémie. Ça fait que ça suscite aussi des questionnements, puis de la curiosité sur qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau du matériel à diffuser? Tu sais, l'idée dont tu parles de hub, de centre, mais pourquoi ne pas avoir, en fait, la possibilité d'avoir une sorte de... Ben, je ne sais pas si vous avez ça au séminaire, mais de salles avec tu sais, quelqu'un des TI, mais qui serait spécialisé dans ça. Puis tous les projets du cégep pourraient passer dans cette salle. Tu vois, au lieu d'acheter je ne sais pas combien de casques, mais avoir des casques qui restent dans la salle, mais avec des essais qui sont faits et puis des cours en réalité virtuelle qui sont faits à partir de cette salle. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles dans le sens où, tu sais, il y a pas mal le problème de la sécurité des données. On voit que les casques Quest 2 sont bon marché, commencent à être bon marché, mais tu sais, il y a cette contrainte d'inscrire les étudiants ou du moins d'inscrire des comptes sur Facebook.
Ben là, t'amènes des bonnes idées, puis je pense que ces idées-là, là, ils doivent être entendues, là, parce que là, on a commencé à en parler au comité immersif, là, mais tu sais, pour moi, là, autant là, une commission scolaire avait à l'époque son centre de reprographie, là, tu sais, puis là, il y avait des grosses machines, puis là, tu amenais ta job, puis tu pouvais l'envoyer par Internet, puis ça. C'était un centre, puis là, les photocopies s'en allaient, les travaux s'en allaient. On n'est plus là, là. Là, on a tout passé on est à distance, on est capable, on l'a fait le saut là, vers le à distance. C'est pas parfait, là, mais on est capable de développer du contenu maintenant et aller plus loin. Puis c'est ça, dans le fond, ce que j'entends, c'est d'aller plus loin. Puis on est capable d'y aller si on se met ensemble. Je vais donner un exemple bien pratique. Là. Je parlais au coordonnateur là, d'un cégep en SPU, là, en soins préhospitaliers d'urgence. Eux, là, ils ont des budgets pour faire des simulations, OK? Des simulations sur le terrain d'une auto qui brûle, sauver quelqu'un à côté de l'auto qui brûle. Ils ont plein de sortes de simulations. Ils doivent appeler la ville du petit village, mobiliser les pompiers, mobiliser les gens de premiers soins là, de la petite ville, parce que ça se peut qu'il arrive quelque chose. Ils doivent amener des voitures, ils doivent mettre le feu aux voitures physiquement, réellement.
C'est digne d'un film de Hollywood, là. C'est vraiment...
un polar. Puis, écoute, je suis convaincu que cette simulation-là, là, est extraordinaire pour un apprenant. C'est sûr et certain que c'est la meilleure façon que lui voit la réalité. Sauf que, ben peut-être que si on se mobilise puis qu'on prend ces budgets-là puis qu'on les amène en réalité virtuelle, ben là, on n'a plus besoin de déplacer personne. L'apprenant, il peut la refaire, cette simulation-là. Parce qu'une fois que tu as brûlé le char, là, la voiture est brûlée, là, tu peux la brûler en faisant un reset. Tu peux y faire faire la... Puis tu peux avoir des rapports aussi de son comportement. Tu peux avoir à ça son pouls, hein, ses signes vitaux. Comment qu'il réagit? Est-tu vraiment bien stressé? Oui, il est trop stressé. Regarde, reste quand... Il y a plein de données que tu peux avoir grâce à la réalité virtuelle. C'est pas parfait encore. Mais si on se met ensemble, parce que soins préhospitaliers liés d'urgence, là, il y en a à UNSIC, il y en a dans Laurentides, il y en a à Drummondville, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Québec, il y en a un peu partout.
Donc, se mettre ensemble et créer un pôle qui pourrait permettre aux étudiants d'avoir en fait accès à cette formation?
Bien, écoute, si on est capable de développer du contenu là, qui est sûrement vu, peut-être avec des nuances, hein, sûrement avec des nuances, puis c'est là que je pense que le spécialiste de contenu, là, pour la rétroaction, on en parle, là, il est incontournable. Hein.
Oui.
La simulation comme telle, là, ben, je pense qu'on peut peut-être la standardiser, tu sais, puis la standardiser avec un casque de réalité virtuelle. Puis il y en a plein de simulations qu'on peut penser là, juste en soins préhospitaliers d'urgence, là, mais écoute, fait que ça en est un exemple, mais dans d'autres exemples aussi, il peut y avoir. Tu sais, ce qu'on a fait en architecture, là, ben ça peut se reproduire très rapidement là, lorsqu'on monte des logiciels comme Revit, SketchUp, ça, soit en mécanique du bâtiment, en ingénierie ou en quoi que ce soit. Donc, on peut les amener rapidement, puis on peut créer du contenu avec des spécialistes de contenu vers la réalité virtuelle. Mais la réalité virtuelle aussi, ce qui est le fun, c'est que si on retombe dans une pandémie quelconque, là, dans 5, 6, 7 ans, on aura, nous, au Québec, l'expertise de développer des contenus de réalité virtuelle qui va passer à travers le réseau et on va livrer ça à la maison. Fait que là, à quelque part, on aura développé la capacité de le faire, l'expertise, puis on va être capable de livrer l'éducation, les laboratoires, tout ça, à la maison, certains laboratoires.
Mais les casques, alors, la question des casques et du matériel, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On se prend des Oculus Quest, puis on dit pas, mais on fait des comptes fictifs. Ça passe par les TI, on fait des comptes fictifs sur Facebook. Comment on arrive à se débrouiller dans tout ça?
Le contenant, là, lui, là, il va tout le temps changer. Hein, le contenant, là, on le sait, là, à un moment donné, là, c'était la guerre entre Mac, PC, entre ci, puis ça. Le contenant, il va tout le temps changer. Nous autres, les experts de contenu, là, nous, on va le faire, le contenu. Présentement, là, je suis convaincu que Facebook a de la pression au bout du milieu de l'éducation, pas juste du Québec, là, parce que quand on se parle entre nous autres, on se dit…
Ouais, c'est partout.
Ouais, c'est partout là, qu'ils mettent de la pression, ils disent « Votre produit, on le veut, puis on veut avoir 40 casques pour faire nos laboratoires. » C'est certain qu'ils ont de la pression à le faire. Puis là, ils doivent être en train de regarder comment qu'on peut gérer l'éducation qui veut accéder. Ça va accéder. Là, présentement, on n'est pas encore à nos premiers balbutiements. On n'est pas encore à diffuser tant que ça, tu sais. On est plutôt à l'organiser, moi, je te dirais, avec les reptiques, en tout cas. On est à l'organiser, puis à le regarder, puis à l'envisager comment développer du contenu. Puis après ça, je pense que le contenant, lui, on va toujours être capable de s'adapter au contenant. Puis ça va tellement vite, là, tu sais, c'est ça que je te dis, là, présentement, Facebook tient quelque chose avec l'Oculus, mais probablement que dans 6 mois, il y en a des…
Il y a le Apple qui va sortir, parce qu'ils se sont rendus compte que, ouais, il y a le Apple qui va sortir, qui va en faire un aussi bon marché. Puis, ben, il y a les concurrents qui travaillent fort aussi. Ben, si tu es amené à pouvoir, avec ta boule de cristal, nous dire dans un futur proche ou dans un futur même plus éloigné, comment tu la vois, cette réalité virtuelle en éducation dans le réseau collégial? Là, on en a un peu parlé. On a parlé des pôles qui pourraient regrouper différents cégeps, mais qui proposent la même formation. Mais comment tu le verrais déjà dans un futur proche, puis plus éloigné, tu peux aller vraiment plus loin là, mais nous dire tout ça. Comment tu le vois?
Je te dis, dans trois ans, Florence, on se reparle. Là, puis je pense que la formation à distance, là, déjà avec Microsoft Mesh, là, puis notre clown de la liberté, là, ben eux autres, là, ils ont fait un projet là, dans… Et ça va se démocratiser, ça va être là. On s'en va vers ça. Une des grandes souffrances là, qu'on vit présentement là, en temps de pandémie, lorsqu'on est ensemble, là, je t'ai parlé de ma grandeur, mais tu n'as pas conscience de ça. Tu me vois
comme… Mais non, j'ai pas conscience du tout.
Je ne suis qu'un tronc. Je ne suis qu'un tronc à l'écran. Mais j'ai de l'ampleur dans la vie. Je pense que si on se parlait à travers un casque, à filmer en volume, en volumétrique, là, on aurait un sentiment de présence là, qui serait…
Oui, oui.
Parce que la formation à distance, c'est vraiment de diminuer la distance entre les deux
c'est vraiment le défi, effectivement.
C'est vraiment le défi. Puis, tu sais, moi, je pense que avec ces nouvelles technologies-là, on va réussir à réduire vraiment. Juste là, comme ça, hier, j'assistais à un webinaire, puis déjà, il y a des jeunes qui ont développé un patch pour le casque Oculus qui va, parce que Oculus Quest 2, là, il rouvre la caméra pour placer ta zone de jeu, pour si tu sors de la zone de jeu. Donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un patch pour t'amener en réalité augmentée. Fait que déjà là, on s'en va ailleurs là, avec le casque. Là. Le casque, ça peut devenir d'autres choses. C'est ça, je dis.
C'était ça, c'est avec le Quest 2, ça?
Le Quest 2, oui. C'était un webinaire en Californie. Là, il parlait de ça. Il disait, oui, il y a des rumeurs là, qu'il y a des jeunes qui ont réussi à craquer le casque pour amener le casque en réalité augmentée. Puis que Facebook développe ça aussi parallèlement, que le casque puisse faire tout, là. Tu peux aller en réalité augmentée, tu peux aller en réalité immersive. Fait que ça s'en vient. Il y a des choses qui s'en viennent fort, puis ça va être vraiment ça. Ça va réduire la distance entre l'enseignant puis l'apprenant. Puis pour moi, dans 3 ans, on va être là. Moi, je travaille fort pour ça. Je travaille beaucoup sur ce projet-là. La formation à distance, à réduire la distance entre l'apprenant et l'enseignant. Par une digitalisation de l'humain, là, amener l'humain en avatar, peut-être. Là, présentement, on est plus là pour que ça passe, disons.
En hologramme, comme le propose Microsoft Mesh. C'est fou, ça.
Oui, ce serait cool, ça, en hologramme. Ça, c'est super. Tu sais, juste, tu sais, tu parlais tantôt là, des outils qu'on pourrait développer, mais tu sais, là, présentement, il faut regarder DevKit, là, qui amène un studio volumétrique. Mais si chaque collège a son studio volumétrique, là, à 4, tu sais, pour environ 5 000 $, là, on est peut-être capable de se développer un studio volumétrique puis pouvoir numériser nos spécialistes de contenu puis les amener dans un univers, ben, crime. On est gagnant, là. Je pense que pour 5 000 $, on est capable. Chacun pourrait avoir son contenu. Mais après ça, dans la salle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut que ça soit géré, toutes les conditions haptiques qu'on peut développer à l'intérieur de la salle, ben c'est là que je pense qu'il peut y avoir un regroupement, une espèce de centre de reprographie qui eux autres vont peut-être programmer là des salles puis dire ben il se passe telle chose dans tel cours, il faut que ça soit là. Puis, tu as ton spécialiste de contenu qui vient jouer à l'intérieur de cette salle-là.
Je suis comme toute excitée en entendant ça parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment au début.
Oui.
C'est une technologie qui va tellement évoluer. Toi, tu t'as vécu déjà, tu sais, tu parlais du multimédia, tous les effets spéciaux et tout ça. Tu vis encore quelque chose comme ça. Puis, tu as vu les évolutions avec les effets spéciaux. Tu en arrives maintenant à être au début de la réalité virtuelle, ouais. En tout cas en éducation. Ça, tu sais, tu dois te dire, ça va évoluer, puis ça nous dépasse même. La manière dont ça va évoluer.
C'est ça. Moi, ce que j'ai vécu, tu sais, je le sais que c'était pénible là, au départ. Là. Moi, sortir une animation 3D là, d'un personnage bien simple là, chez Prime, ça m'avait pris 24 heures là, pour 10 secondes. Là, tu sais. Fait que là, je dormais chez Prime sur la banquette à côté de l'ordinateur, puis j'attendais mon projet. Le côté instantané, ça n'existait pas là, en 90-91. Mais aujourd'hui, il y a un côté instantané, mais il faut l'adapter. Il faut s'adapter à ce nouveau médium-là. Puis, c'est pas simple. Mais non, c'est pas simple, mais ça évolue vite. Tu peux juste penser au iPhone 12, là. Le iPhone 12, là, t'es capable de te filmer en volume. Hey, c'est extraordinaire, là. Tu viens te faire un avatar, tu peux faire des scans, tu peux scanner des pièces au complet, tu peux amener...
Ouais, c'est ça. C'est raté pour moi. Je suis partie sur l'iPhone 11, mais voilà, tu sais, c'est... Il nous pousse toujours à consommer plus.
Il faut que tu aies quelque chose à dire aussi. Ça a toujours été. Là, si tu n'as rien à dire, tu vas faire des scans de ta tasse de café à toi le matin. Ça dit pas grand-chose. Là, faut que t'aies... C'est pour ça que je dis que des experts de contenu, là, c'est essentiel. On ne pourra jamais là, enlever l'expert de contenu. C'est juste que si... On vient, j'avais assisté à M. Dupin, là, la conférence que tu avais amenée, là. J'avais posé la question, et si l'intelligence artificielle s'en mêlait, là, on s'en va ailleurs, là.
Ouais, non, mais c'est vrai, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. On s'en va vraiment ailleurs. Ben là, on s'en va vraiment dans le film de science-fiction. Je crois qu'on est déjà un peu dans la science-fiction, là, souvent, je me sens un peu comme ça. Mais effectivement, si on combine les deux, là, on s'en va vraiment ailleurs.
Puis aussi, hier, là, c'est ça, la CEO de Metastage, qui était en webinaire, hier, disait le deepfake. OK? Hey, là, wow! Le deepfake en réalité virtuelle, OK? Donc, digitaliser un humain, mais pense-y, là, t'amènes en deepfake, mettons, David Bowie, mais là, tu peux refaire le spectacle de David Bowie avec des personnages qui vont imiter David Bowie, mais tu vas être certain
que c'est David Bowie. Ouais, ça a déjà été un peu... Ça, c'est pas que ça a été fait, je sais pas quelle technologie ils ont utilisé à l'époque, mais tu sais, à l'époque, ils avaient reconstitué comme une partie d'un concert de Michael Jackson. Mais je pense qu'ils ont joué avec, tu sais, les images, tu sais, quelqu'un qui lui ressemblait, qui bougeait comme lui.
Ouais. Mais tu sais, en éducation, tu te dis, ben là, j'ai un concept à expliquer qui est pas facile. Mais je vais ramener Einstein, tu sais. Je vais faire un deepfake d'Einstein, puis il va expliquer à mes apprenants un concept de physique, puis ils vont être là à côté d'Einstein, là, qui va parler, là, tu sais. Mais là, on parle de moyens grandioses, là, si je veux ramener en deepfake. Fait que là, le deepfake, c'est de l'intelligence artificielle, hein, qui vient se modéliser sur les comportements d'un acteur, puis là, on ramène le visage de quelqu'un qui est plus là. Puis il y a plusieurs passes, là, machines pour amener le personnage qui est mort sur un acteur réel. Mais quand on y pense, là, amener quelqu'un en VR immersif comme ça, puis t'es vraiment à côté de lui, tu vas te faire apprendre, c'est sûr. Tu vas vraiment pouvoir faire le tour d'Einstein puis regarder sur toutes ses coutures qui est Einstein, là. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais. Ben ça, c'est des moyens qui dépassent peut-être l'éducation, là, on rêve, là, mais ça se fait, là. Ils l'ont fait, là, chez Metastage, là. Ils ont fait un deepfake avec un personnage numérisé comme ça. Fait qu'on avance, on avance rapidement.
On avance, et puis, ben, ça va être dans un futur proche. En tout cas, là, tes projets pour parler de ton futur projet ou ce que tu es en train de faire en réalité virtuelle, là, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Ben c'est ça. Là, présentement, là, avec Félix, là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de numériser un professeur, puis on le fait, là. On numérise le professeur, puis on va donner des rétroactions à l'intérieur de projets qui ont été faits par étudiants, qu'on amène tout ça en VR. Fait que l'apprenant va se promener dans son environnement, là, ce qu'il a dessiné, là, en architecture. Puis le professeur va dire, ben écoute, ici, là, je pense que ta porte, elle aurait intérêt à être dans cet angle-là. Le corridor va peut-être mieux, on va peut-être mieux passer dans le corridor, des choses comme ça. Fait que les rétroactions, c'est ce qu'on veut faire. La semaine prochaine, on s'en va là-dessus. On va filmer Mylène, notre professeure en architecture. Elle va donner des rétroactions sur le plan de l'apprenant. Puis on va tout intégrer ça à l'intérieur d'une vidéo à la fin, là, de l'environnement. Ça va reproduire l'environnement. On s'en va sur YouTube, hein, aussi, parce que c'est pas si facile que ça, là, de diffuser présentement, là.
Oui.
Ça prend les casques, ça prend des bonnes machines, ça prend le logiciel. Fait que là, on va être capable de sortir ça. Puis ça, c'est le fun de YouTube. Là, on est capable de sortir un 4K anaglyphe qui donne des perspectives 3D. Fait que oui, on est en 3 degrés de liberté, là, en rotation X, Y, Z, mais ça donne quand même un bon aperçu, puis la vidéo de Mylène va jouer aux endroits où il y a de la rétroaction à donner sur le plan. Fait que c'est ce que je m'en vais faire.
Mais ça me fait penser que tu devais pas m'inviter à quelque chose. Moi, j'ai envie de voir ça. Il me semblait que tu disais que tu avais une...
Je vais te montrer, là, mais là, c'est sûr que... Pour ta balado, ça sera peut-être pas super efficace.
Ben ouais, c'est ça. En plus, on arrive en plus presque à la fin. Ça passe trop vite parce que ça me passionne tellement. Puis je fais des essais à la maison, mais ce qui manque encore justement dans des casques, mais on en parlait, hein, le contenu, tu sais, le contenu éducatif, ça manque dans les casques Oculus quand c'est très événement, sport, loisirs, mais ça manque de contenu. Puis je pense que c'est ça. Tu fais partie des acteurs en fait du réseau qui poussent en fait à développer du contenu en français. Déjà, c'est important. Il y a du contenu. On peut trouver des contenus en anglais, pas mal, mais du contenu en français, puis du contenu, mais vraiment éducatif. Et ça, c'est pas évident d'en trouver. Donc, c'est sûr que le travail qu'il y a à faire, comme tu dis, ben, c'est de développer du contenu. Puis ensuite, après, les casques, c'est juste le matériel.
Oui, c'est ça. Parce que si on se limite aux casques, tu sais, parce que, mettons, il y a des sites Internet, mettons, au début des sites Internet, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, c'était des pages, c'était
ouais,
du texte. C'est de la vidéo. Maintenant, c'est des moteurs. Tu sais, tu peux rouler, mettons, un objet 3D sur... ça a évolué, ça aussi, là. Mais le contenu reste quand même la même chose. Même si tu as bien des bébelles à l'écran, ben tu resteras pas s'il y a pas quelque chose de plus que juste un contenant. Moi, je m'intéresse pas tant que ça au contenant. Pour moi, là, pis ça, je le répète encore, les spécialistes de contenu, là, sont dans le réseau.
Oui.
Ce sont nos enseignants. Ils ont quelque chose à apporter. Nous, là, comme technopédagogues, je pense qu'on peut les soutenir en amenant justement une scénarisation des contenus par rapport au contenant, là, au médium. Fait que je pense que c'est ça notre rôle. Puis je pense qu'on est capable de pousser plus loin. Mais aussi, il faut que le gouvernement embarque puis nous donne les moyens de le construire, ce contenu-là, dans le virtuel. Puis une fois qu'on va les avoir, ces contenus-là, ben là, on va pouvoir les diffuser. On va pouvoir les diffuser de toutes les manières, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en desktop VR, de toutes les façons que tu peux imaginer. Comme on dit, ça va prendre une bibliothèque, pour dire, ben là, je fais appel à tel contenu qu'on a développé dans le réseau.
Fait que... Ouais. C'est ça. Ben on va continuer à en parler. Merci beaucoup. Et puis, on se recontacte. Moi, j'attends d'être invitée pour une petite observation, une petite exploration. N'hésite pas, en tout cas, je viendrai frapper à ta porte.